Esprit de Justice qui, ce soir, va s'intéresser aux stages de sensibilisation, c'est-à-dire à des stages qui sont organisés dans de plus en plus de domaines. Et on va se demander s'il s'agit d'une peine, d'une amende ou d'une mesure d'éducation. Tous les auditeurs connaissent les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Ils sont proposés pour récupérer des points de permis de conduire. Mais ils ne savent probablement pas que des stages identiques sont aujourd'hui proposés pour de multiples infractions. Des stages de citoyenneté pour les auteurs d'incivilité. Les stages de sensibilisation aux produits stupéfiants pour les usagers de drogue. Aux violences conjugales pour les hommes violents. À la prostitution pour les mineurs prises dans les réseaux, et cette liste ne cesse de s'allonger. Ces stages durent un ou deux jours, c'est selon. Leur coût également, qui varie, est à la charge des participants, ce qui l'apparente peut-être à une sorte d'amende. Et ils sont organisés par des associations socio-judiciaires ou médico-sanitaires. Des professionnels sont invités à parler, à expliquer la loi, à dire quelles sont les prohibitions légales, détailler aussi les ressorts de la violence et surtout avertir des risques associés à certains comportements. Le développement de ces stages s'explique par le souci de la justice d'apporter une réponse à chaque délit. La fameuse thèse de la réponse pénale. Et quelle que soit la gravité du délit, il faut que la justice intervienne pour éviter le classement sans suite ou dépasser le simple rappel à la loi, c'est-à-dire une admonestation pure et simple confiée à des citoyens, souvent des anciens policiers ou gendarmes. Alors, comment qualifier ces stages? Faut-il y voir de nouvelles formes de peine intelligente, plus intelligente que la prison, des amendes déguisées ou des mesures d'éducation coercitive? Et puis, on se posera la question, ces stages sont-ils efficaces et quel est leur objectif? Esprit de Justice propose donc de dresser un bilan à partir de deux exemples, les stages stupéfiants en matière d'usage de drogue et ceux en direction des hommes violents. Et pour ça, il a invité Ivana Obradovic, qui est politiste, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, qui est membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, le CESSP, et chercheuse associée au CESDIP, au bien connu CESDIP, sur ces questions pénales. Elle est l'autrice de plusieurs articles et ouvrages concernant ce sujet. Elle a conduit d'ailleurs une étude sur les stages stupéfiants. Et pour apporter un autre regard, Marine Delaunay, qui est sociologue, chercheur associé au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux et qui est l'autrice d'un article paru l'année dernière dans la revue Déviance et Société, un article intitulé « La responsabilisation des auteurs de violences conjugales à l'épreuve de leur stratégie de contestation des décisions de justice ».
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, ma première question sera pour vous, Ivana Obradovic. Les stages stupéfiants n'ont pas été les premiers dans l'histoire de ces stages?
Non, effectivement, mais ils s'inscrivent dans une doctrine pénale qui commence à apparaître à partir des années 2000. L'ensemble des stages que vous avez cités, souvent, ils ont été développés d'abord sous une forme expérimentale. Par des magistrats du parquet avant d'être consacrés par le législateur. Donc le premier stage, c'était le stage de formation civique qui s'adressait uniquement aux mineurs. Arrivent ensuite les stages de sensibilisation à la sécurité routière en 2003 pour traiter un contentieux de masse lié au délit routier. Ensuite, les stages de citoyenneté et en 2007, effectivement, ces stages de sensibilisation au danger de l'usage des produits stupéfiants, comme on les appelle.
Et qui interviennent, il y avait déjà l'injonction thérapeutique. C'était quoi l'injonction thérapeutique?
Alors justement, l'esprit de ces stages stupéfiants, pour aller vite, c'était d'apporter une réponse pénale à mi-chemin entre le simple rappel à la loi, qui était jugé insuffisamment dissuasif, et justement les mesures à caractère sanitaire, comme l'injonction thérapeutique, qui a été créée par la loi de 70, la fameuse loi du 31 décembre 1970, qui interdit l'usage de stupéfiants et qui crée justement ce dispositif.
Et qui organise tout le dispositif français, en fait.
Voilà, c'est ça, avec l'idée de profiter, entre guillemets, de la sanction pénale pour offrir un tremplin vers une orientation sanitaire, une prise en charge pour les usagers dépendants.
Alors, il y a un mot qui revient tout le temps, Marine Delaunay, c'est ce terme de responsabilisation, de sensibilisation. Et donc, vous avez travaillé, vous, sur un certain type de stage dans lequel le but, alors, il prend tout son sens. Faire prendre conscience aux hommes violents, alors je ne sais pas comment il faut les appeler, les maris violents,
les auteurs de violences,
les auteurs de violences conjugales, mais ils ne sont pas toujours conjugales. Parfois, il n'y a pas de mariage, c'est un partenaire simplement.
Alors effectivement, donc, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Déjà, c'est la question du cadrage. Effectivement, en France, on a tendance à parler de violences conjugales. Dans d'autres pays, on peut parler de violences entre partenaires intimes ou de violences de genre. Mmh. C'est le cas pour ce que j'ai pu étudier en Suède, notamment.
Vous avez fait votre thèse en une comparaison entre la France et la Suède sur cette question-là.
Tout à fait sur cette question. Et alors, c'est vrai que on parle aussi de violences domestiques, ce qui réduit encore plus, à mon sens, la focale sur un lieu de vie. Et
Oui, ou les violences intrafamiliales, maintenant, les VIF. Oui.
Effectivement. Mmh. Avec la notion de violence conjugale, on a cette idée de lien de conjugalité nécessaire à la qualification, tandis qu'on l'a un petit peu moins avec la notion de violence entre partenaires intimes, qui est un peu plus inclusive et qui admet davantage de formes de formes relationnelles, en fait, et des formes notamment très, très contemporaines, c'est-à-dire sans lieu de vie commune, sans des couples sporadiques et des histoires qui ne sont pas forcément des histoires conjugales, et voire des anciens conjoints, des anciens partenaires aussi.
Et alors, ils se retrouvent devant l'un d'entre eux, souvent l'homme, mais pas tout le temps. Il peut y avoir parfois une femme se retrouve dans la justice et la condamnation, ou l'alternative aux poursuites, c'est aller assister à un stage.
Voilà, un stage de responsabilisation pour violences intrafamiliales. Ils sont souvent labellisés ainsi, au sein desquels on va retrouver donc ces auteurs de violences conjugales. Et ces stages visent donc à responsabiliser. Ils ont également pour principe d'éduquer aux notions d'égalité.
Alors, racontez-nous comment ça se passe, un stage pour des hommes violents. Vous avez assisté à des stages, vous, Marine Delaunay, oui?
Alors, j'ai assisté à un type de stage qui, comme vous l'avez décrit en introduction, donc un stage qui durait un jour et demi, qui était donc aux frais des stagiaires, effectivement, et qui peut s'apparenter.
Ils n'ont pas le choix, il faut payer.
Ils n'ont pas le choix, oui. Ça fait partie de la sanction, en fait. En plus de quoi, ils doivent prendre un jour et demi de RTT.
Donc, perte de salaire.
Voilà, perte de salaire. Donc, les stages, on observe une diversité de stages. Déjà, à l'époque où moi j'ai enquêté, aujourd'hui la diversité est d'autant plus importante. Mais à l'époque où j'ai enquêté, donc entre 2014 et 2019, on n'a pas de structure homogène, en fait, sur le territoire français.
C'est selon les associations,
tout à fait, à la discrétion des associations et des professionnels, de la disponibilité aussi du réseau local et de sa propension à participer au stage. Donc, sur certains stages, les travailleurs sociaux, les éducatrices, animer l'entièreté du stage, essentiellement des femmes. Sur d'autres stages, on peut avoir une diversité.
C'est pas évident quand il s'agit principalement d'hommes violents.
Oui, effectivement.
On y reviendra, mais c'est une des questions. Alors, vous parliez, Marine Delaunay, des associations. C'est très important, ça, dans le paysage Ivana Obradovitch, c'est que il y a plusieurs associations. Vous êtes du côté des drogues, c'est plutôt du sanitaire.
Oui, alors justement, une des caractéristiques intéressantes de ces stages, c'est qu'elles reposent sur une forme de sous-traitance pénale. C'est-à-dire qu'on confie à des acteurs qui sont extérieurs au corps judiciaire des missions de redressement, finalement.
Oui.
Et justement, dans le domaine...
morale, quoi. Oui.
C'est ça. Et dans le domaine des stages stupéfiants, typiquement, les associations du champ médico-social n'ont pas toujours souhaité s'engager dans la mise en œuvre de ces stages pour deux raisons principales. D'abord, parce qu'elles n'étaient pas toujours solidaires de l'objectif même de ces stages qui confond une sanction pédagogique, une sanction financière et l'objectif d'une éducation et d'une pédagogie de la loi.
C'est possible de concilier les trois?
Alors ça, c'est une autre question.
C'est la grande question.
Juste pour finir sur ce point, il y avait aussi la crainte pour ces associations d'être considérées comme des auxiliaires de justice, sachant que le principe de prise en charge des usagers de drogue, c'est justement de proposer des soins anonymes et gratuits. Et c'est là que le bât blesse, puisque les stages sont payants. Et donc, les XAPA, les centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, ne souhaitaient pas encaisser le coût de ces stages.
Puisque ça devient un peu des collecteurs d'amendes.
Alors, pas des collecteurs d'amendes, parce que, justement, la facturation de ces stages sert à rémunérer les intervenants. Donc c'est pas du bénéfice, si vous voulez. Mais bon, en tout cas, ça les plaçait dans une situation un peu hybride que certains n'ont pas souhaité assumer. Et ça explique aussi les disparités dans les associations porteuses de ces stages stupéfiants, qui sont parfois des XAPA, des associations du champ médico-social, parfois des associations socio-judiciaires.
C'est ça. Ils travaillent pas de la même manière?
Non, pas tout à fait. Bah, déjà, une des particularités des stages stupéfiants par rapport aux autres dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a trois modules. Un module sanitaire, animé par des intervenants du champ sanitaire, plutôt des soignants ou des acteurs de prévention, qui est censé exposer les risques sanitaires liés à l'usage. Ensuite, un module judiciaire, qui rappelle vraiment la loi, les sanctions encourues, etc. Et un module dit sociétal, qui parle des dommages sociaux, des risques, par exemple, de consommer du cannabis au volant, etc. Et donc, on a des profils d'intervenants qui sont très variés pour répondre aux besoins de ces trois modules.
Et Marine Delaunay, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des associations qui interviennent. Ça, c'est une manière de faire entrer la société civile aussi dans la justice. Parce que j'imagine que pour les hommes violents, une compréhension de la violence, une explication de la violence, c'est quelque chose qui doit être fait par quelqu'un d'extérieur, qui soit pas nécessairement ni un policier ni un juge.
Effectivement, le caractère éducatif s'inscrit pleinement dans cette logique de responsabilisation. C'est une stratégie qui semblerait tout à fait adéquate. Et
ouais, on a l'impression aussi que c'est comment dirais-je, du point de vue de la justice, il faut absolument qu'il y ait une réponse et une réponse systématique. Et donc, faut faire quelque chose. Et la réponse pénale, pour nos auditeurs, c'est l'idée que à chaque délit, si minime soit-il, il y ait une réponse pénale. C'est pas aussi ça, Ivana Obradovitch, cette volonté de la justice de faire quelque chose.
Bah, clairement, pour les stages stupéfiants, c'était vraiment l'esprit, puisque ces stages, ils contribuent à diversifier les types de sanctions pénales qui sont prévues pour punir la consommation de stupéfiants. Donc, ils s'inscrivent vraiment dans cette perspective-là, dans les années 2000, avec l'idée de faire baisser le taux de classement sans suite et de systématiser la réponse pénale à travers un type de sanction facilement mobilisable pour les acteurs judiciaires.
Mais surtout que ça porte sur des quantités assez considérables, Ivana Obradovitch, sur les stages stupéfiants. C'est pas des petites quantités.
Alors, les stages stupéfiants, ils sont montés en puissance. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a fait l'enquête à l'OFDT sur la mise en œuvre de ces stages, c'était 4 à 5 ans après la loi de 2007. Et on s'apercevait que la montée en charge était progressive et réelle, au point que les professionnels de santé craignaient que les stages viennent siphonner le public qui était orienté vers des soins, vers notamment des orientations sanitaires et sociales, des injonctions thérapeutiques, etc. Donc voilà, il y avait cette crainte.
Ça représente quel chiffre, par exemple, les stages stupéfiants de ces dernières années?
Alors, dans les toutes dernières années, en regardant, c'est parfois compliqué de répondre à cette question,
oui,
puisqu'il y a différents cadres procéduraux.
En masse, oui, c'est ça.
C'est à peu près 40 000 mesures par an.
40 000 mesures par an, mais si on additionne tout, ça fait 120 000 ou 130 000 mesures en tout.
Alors, pas forcément pour les stages stupéfiants, puisque, en gros, le contentieux des stupéfiants, toutes infractions confondues, c'est-à-dire pas seulement la consommation, c'est à peu près 200 000 procédures par an. À 80%, il s'agit de consommation de stupéfiants et dans ces 80%, 90% c'est du cannabis.
Voilà. Alors concernant les maris violents, la masse c'est quoi? C'est pas aussi important en nombre les stages?
Alors, ce ne sont pas que des maris, ce sont des anciens compagnons. De la même manière que pour les stages dont on vient de parler, ce sont les stages de responsabilisation violence intrafamiliale concernent aussi un contentieux de masse et permettent d'absorber, d'étendre le filet pénal pour des faits qui auparavant n'auraient pas été sanctionnés ou auraient été probablement classés sans suite. Ils servent aussi à absorber cette masse-là.
Alors c'est intéressant parce que là on parle des stupéfiants et puis des violences intrafamiliales, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Certains sont un peu d'ailleurs pas, comment dire, ils sont surprenants, mais pas tant que ça. C'est-à-dire par exemple il y a toute la question du travail illégal. C'est-à-dire on fait des stages de travail pour des employeurs qui ont employé au noir des travailleurs, des ouvriers, et avec une obligation de se mettre en conformité. C'est-à-dire que il y a vraiment une dynamique de retour dans la norme en matière de transport avec chauffeur. Et puis dans un autre domaine, c'est le titre qui est donné par la loi sur la lutte contre l'achat d'actes sexuels, c'est-à-dire la prostitution, c'est un contentieux de masse également. Je ne sais pas si d'entre vous peut dire quelque chose sur la prostitution, Ivana Obradovic.
En tout cas, le point commun de tous ces stages, c'est vraiment d'instaurer une nouvelle forme de pénalité, comme le disent Virginie Gautron et Pauline Raffalen, qui ont fait un article très intéressant sur cette nouvelle doctrine pénale. Donc c'est des mesures qui sont présentées comme innovantes en général, avec l'idée donc d'articuler éducation, prévention et sanctions, et qui reposent sur cet idéal de responsabilisation, avec l'idée finalement que le passage à l'acte délinquant découlerait d'une ignorance, d'un manque de connaissances sur les risques.
C'est un peu naïf ça, non ?
C'est une doctrine pénale avec ses,
est-ce que vous pensez, par exemple,
avec ses présupposés.
C'est ça. S'agissant de la drogue, parce que c'est quand même, pour la drogue, c'est un cas intéressant, parce que dans la drogue, effectivement, les stagiaires apprennent des choses, non, dans ces stages.
Alors tout à fait, c'est vraiment un des premiers enseignements de notre enquête qui montrait que à 80%, ils étaient assez satisfaits du contenu des stages et de la qualité des intervenants. Après, en termes de portée dissuasive de ces stages, le bilan peut être plus mitigé, c'est-à-dire que les participants au stage qui avaient déjà amorcé une réflexion sur leur consommation, sur les risques liés à la consommation, sur ce que ça leur faisait perdre, par exemple, en termes financiers, en termes de qualité des relations familiales, ont été assez sensibles au message des stages, au point d'envisager de réduire, voire d'arrêter leur consommation. En revanche, ceux qui n'étaient pas du tout dans cette perspective ont pu trouver les stages soit moralisateurs, soit finalement de peu de portée du point de vue de leur changement d'attitude.
Mais vous dites dans votre article, vous dites que dans le fond, la posture moralisatrice ne marche pas en matière de toxicomanie.
Alors ça on le voit à travers notamment les évaluations des campagnes d'informations qui jouent sur cette fibre moralisatrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les stages stupéfiants, en grande majorité, ne sont pas perçus comme moralisateurs. Et donc, ça revient à mon commentaire précédent sur la qualité des intervenants. C'est-à-dire que les animateurs de ces stages ont réussi à en faire un outil, finalement, de sensibilisation et d'information collective plutôt intéressant.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur le bilan et l'efficacité des stages de sensibilisation, que ce soit en matière de drogue ou en matière de violence intrafamiliale, en compagnie de d'Ivana Obradovic, qui est la directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, et Marine Delaunay, qui a choisi de nous faire entendre cette ère de Patti Smith, « People have the power ». Voilà, c'est les associations aussi font partie du peuple, hein, finalement, pour avoir ce pouvoir de correction. Mais alors, Marine Delaunay, vous avez travaillé, vous, sur quelque chose de plus délicat, qui est la violence masculine à l'égard de leur partenaire, de leur partenaire intime. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que vous diriez que ces stages ont favorisé une conscientisation de la part de ces hommes?
Alors c'est vrai que les résultats que j'ai publiés dans l'article permettent d'en douter en réalité, compte tenu de la manière dont les auteurs de violences conjugales continuent de parler de leur rapport à la violence, continuent de normaliser en réalité la violence conjugale.
De fémiser, quoi, de se dire oui, mais j'ai été violent peut-être, mais j'avais des raisons.
Exactement, voilà, d'inscrire cette violence dans des logiques d'action. Commune, banale et classique en fait dans les couples. Donc voilà, ils ont plusieurs stratégies, des stratégies de minimisation de la violence, des stratégies où ils nient l'existence de la victime, où ils se déresponsabilisent en cherchant dans les configurations conjugales qui étaient les leurs, les raisons qui ont poussé à l'acte. Et voilà, donc de manière générale, si on fait si on observe toutes ces stratégies là de détournement de la responsabilité, on peut douter de les.
C'est ça, parce qu'on il y a quelque chose quand même qui est un dénominateur commun de tous ces stages, c'est de montrer aux auteurs d'infractions le mal que ça fait, les dégâts que ça fait, les dégâts directs ou indirects, visibles ou invisibles, à des tiers ou à soi-même, d'ailleurs, en ce qui concerne la drogue. Et là, il y a une part importante, j'imagine, dans ces stages, pour dire, regardez ce que c'est la violence que ça provoque très souvent les femmes.
Bien, pas tant que ça. C'est vrai que les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales sont structurés un petit peu de la même manière que les stages stupéfiants. On a plusieurs volets, généralement. Alors, il y a plusieurs formats, comme je disais tout à l'heure. On peut avoir des formats type groupe de parole. Et moi, j'ai plutôt observé des formats structurés selon quatre volets, avec un volet juridique-judiciaire qui vient rappeler un peu les termes de la loi, un volet médico-social qui vient donner des adresses et des modes de prise en charge pour les besoins psychosociaux. Un volet, effectivement, sur les effets des violences conjugales sur les enfants et les compagnes. Et un volet plus général sur la violence. Et donc, c'est vrai que ce volet sur les effets de la violence sur les compagnes et les enfants, c'est plutôt les effets sur les enfants qui génèrent des réactions au cours des stages.
C'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais ça veut dire que quand il s'agit de la violence et de l'intimité, est-ce que les gens racontent un peu leur histoire, l'histoire de leur couple, l'histoire de leur enfance à eux, quoi, les raisons pour lesquelles ils sont violents? Est-ce qu'il y a un témoignage personnel, Marine Delaunay?
Alors, ce témoignage personnel, j'ai pu éventuellement m'en rendre compte lors des entretiens individuels que j'ai conduits avec les auteurs de violences conjugales, mais les stages de responsabilisation ne sont pas le lieu d'expression de l'intimité, ni le lieu d'expression de sa propre expérience. En tout cas, les formats que j'ai pu observer, moi, c'était plutôt un format distribution d'informations et éventuellement débat, mais débat largement contrôlé, pas seulement en marge.
Concernant les drogues, est-ce qu'il y a une expression de quelque chose de personnel, groupe de parole ou type mallette? C'est souvent, il y a une majorité de mineurs, j'imagine, parmi les usagers de cannabis ou les usagers de drogue.
Alors non, c'est pas une majorité de mineurs, et c'est pas non plus dans les stages stupéfiants, qui par ailleurs prévoyaient justement de dissocier les stages destinés aux mineurs de ceux des majeurs, pour éviter que les publics se mélangent.
Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils parlent d'eux? Est-ce que les gens... Parce qu'on peut imaginer quand même que dans la perspective d'une prise en charge psy, qui ne va pas se faire pendant le stage, mais qui peut être amorcée à partir du stage, il faut que les gens s'engagent un peu.
Alors c'est justement un des reproches qui a été fait, notamment par les professionnels du soin à ces stages, c'est-à-dire que il s'agit d'une sanction pénale qui n'individualise pas la sanction, puisque c'est des sessions collectives de stage, donc il n'y a pas d'orientation vers les soins qui est prévue par ce biais-là. En revanche, et ça c'est un des effets de cette mesure pénale hybride qui fait intervenir des intervenants sanitaires, sociaux et judiciaires, enfin issus du champ de l'application de la loi, un des effets, c'est qu'il y a finalement un message un peu brouillé avec ces trois modules, sanitaire, judiciaire et sociétal, et les intervenants eux-mêmes ne savent pas trop toujours sur quel pied danser, en tout cas dans les stages que j'ai pu observer. On voyait que les intervenants sanitaires, par exemple, avaient tendance justement à jouer la carte de l'individualisation, essayer d'établir un débat un peu interactif avec les participants à ces stages, qui évidemment sont tentés dans la dynamique collective de faire porter le débat sur la dépénalisation, les raisons de l'interdit sur la consommation de stupéfiants. Et donc on voit qu'il y a un brouillage finalement sur la portée de cette sanction du fait de cette hybridation avec différentes catégories de professionnels.
Ben, c'est un reproche d'ailleurs qu'on va leur faire, Marine Delaunay, qui est très important pour les stages de soutien à la parentalité, qui c'est un autre type de stage dont on n'a pas encore parlé, et qui est un peu très d'ambiguïté, est exaspéré par exemple après les émeutes de fin juin début juillet dernier, où le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti disait on va faire des stages pour en gros pour punir les parents qui ont mal encadré, qui se sont mal occupés de leurs enfants. Et la réponse a été de dire, la réponse des éducateurs est de dire c'est pas comme ça que ça fonctionne une famille. Et on pourrait vous dire, et c'est la question que je vous pose, les relations de couple c'est quand même assez compliqué, c'est long, ça, c'est pas en un jour et demi que ça va se dénouer, mais ça peut faire avancer quelque chose.
Alors la vocation des stages de responsabilisation est sans doute pas de transformer les logiques intimes et conjugales, mais en tout cas de peut-être initier une réflexion, de familiariser et de distribuer des concepts et des outils. Alors la durée du stage, quand elle est d'un jour et demi, c'est si court que ça peut avoir des effets contre-productifs de distribuer des concepts sans avoir le temps de les...
Pourquoi des effets contre-productifs ?
Parce que ce que j'ai pu observer, c'est par exemple un concept qui est très souvent mobilisé au cours des stages de responsabilisation, c'est celui du cycle des violences conjugales. Donc c'est un concept féministe qui montre comment les violences conjugales suivent un cycle qu'on retrouve systématiquement à base de lune de miel et de situations de crise. Et la relecture des auteurs de violences conjugales de ce concept, c'était de dire, c'est à elle de partir au moment où elle sait que...
Que je vais devenir violent.
Voilà, exactement. Donc, quand les notions ne sont pas encadrées et distribuées avec les références qui les accompagnent, effectivement, ils peuvent avoir des effets contre-productifs.
Et vous avez constaté, vous, qu'il y avait plutôt une stratégie de minimisation, plutôt une stratégie de déresponsabilisation vis-à-vis de la violence que de responsabilisation.
Alors, j'ai pu observer les deux. Il y a des stratégies de détournement de la responsabilité et surtout de partage de la responsabilité. Parce qu'on voit quand même la reconnaissance de culpabilité, mais elle est généralement instrumentalisée, elle est accompagnée de stratégies de redistribution en fait des responsabilités à deux. D'ailleurs, les stagiaires indiquent souvent qu'ils regrettent que leur compagne ou leur ex-compagne ne soit pas également convoquée au stage.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris grand-chose au fait des poursuites pour violence avec une ITT inférieure ou supérieure à 8 jours.
Oui, parce qu'eux, ils ont le sentiment, pour ceux que j'ai interrogés, le sentiment que de servir d'exemple à une extension de ce filet pénal. Et qu'au contraire, ils n'ont pas été encouragés à porter plainte comme leurs compagnes ont été encouragées à le faire par les services de police.
Alors, dans le médico-social, il y a quand même une question qui est très importante, Ivana Obradovitch, c'est la fameuse demande. Finalement, on soigne quelqu'un quand il a une demande de soins. Là, la demande de soins, elle n'existe pas dans ces stages.
Oui, par définition, elle n'existe pas, sauf si elle existait déjà auparavant, dans lequel cas l'hostèse est activée. Mais ça a été le principal reproche adressé par les professionnels du soin à ces stages stupéfiants, qui était d'imposer une mesure à prétention pédagogique et sanitaire à des personnes qui n'en veulent pas toujours, et de les obliger à travailler avec ce qu'ils appellent la non-demande de soins. Or, on sait que un des facteurs de réussite d'un processus de réduction de la consommation repose sur l'adhésion thérapeutique. Et cette adhésion, elle est particulièrement difficile à créer. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le colloque singulier entre le médecin et le patient.
C'est très important, oui. L'alliance thérapeutique, c'est-à-dire que spontanément, et le soignant et le soigné sont d'accord pour faire un travail ensemble.
Voilà, c'est ça. Ils se choisissent l'un l'autre d'une certaine manière. Et là, dans le cadre d'une contrainte judiciaire, c'est une relation qui se joue différemment.
Alors, vous parliez de cette attitude des hommes violents qui voudraient que les conjointes ou les partenaires soient présentes. Il y a quand même souvent c'est l'occasion d'une rupture quand même quand il y a une poursuite au tribunal. C'est le dernier avis pour un couple avant sa dissolution.
En matière de violence conjugale, pas toujours.
Pas toujours.
Oui. Ouais. Et c'est bien là une très grande complexité pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et plus généralement les travailleurs sociaux qui travaillent avec ce public-là, c'est que parfois le couple demeure en dépit des violences, voire même en dépit des injonctions à la distance en fait entre les deux partenaires.
Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce comment un stage de sensibilisation, est-ce qu'il n'y a pas c'est là où il y a une est-ce qu'il devrait pas y avoir une prolongation dans une prise en charge beaucoup plus individualisée dans ces cas-là?
Bien, c'est voilà, la réflexion autour de la durée du stage, elle a été prise au sérieux par les pouvoirs publics suite au Grenelle des violences conjugales, là où les auteurs de violences conjugales ont enfin été désignés comme des destinataires des politiques publiques, plus seulement les victimes. Voilà, elle s'est structurée autour de la réflexion de la création de centres de prise en charge pour auteurs de violences conjugales. Donc, il y a une trentaine de centres qui ont été créés en France et qui réfléchissent et qui mettent en œuvre d'autres formats de prise en charge, souvent beaucoup plus longs que ces fameux un jour et demi. Et il y a une très grande disparité. Il y a actuellement des recherches en cours pour cartographier un peu toute cette diversité d'approches et voir comment standardiser, comment homogénéiser les pratiques.
On serait peut-être pas arrivé à la constitution de ces centres s'il n'y avait pas eu les stages de sensibilisation. On a l'impression, vu de l'extérieur, que dans la justice, on a commencé par... Au début, il n'y avait rien, il n'y avait pas de poursuite. Après, il y a eu le rappel à la loi, un peu timide. Ensuite, les stages de sensibilisation. Et aujourd'hui, en matière de violence conjugale, on passe à un stade supplémentaire, qui sont ces fameux centres dont vous nous parlez, qui vont proposer une prise en charge beaucoup plus approfondie.
Oui, exactement. Oui, c'est très processuel. Ça a été, ouais, effectivement.
En matière de drogue, vous voyez quelle évolution, vous, Ivana Obradovic. Il y a eu la loi de 70, l'injonction thérapeutique d'abord, et puis ensuite les stages de sensibilisation, dans lesquels vous avez remarqué qu'il y avait, une grande disparité sur le territoire national.
Alors déjà, pendant les années 2000, il y a eu une phase de diversification des sanctions pénales qui étaient appliquées aux usagers de drogue, avec l'arrivée des stages, mais pas seulement, avec un recours de plus en plus important à tout ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites, les mesures de la troisième voie, en particulier avec une dimension sanitaire, donc l'injonction thérapeutique typiquement. Ce qu'on observe dans la décennie 2010, c'est plutôt un recul des mesures avec une dimension sanitaire.
C'est ça.
Et là, encore plus récemment, depuis 2020, avec la mise en place de l'amende forfaitaire délictuelle, finalement, ce contentieux, il est traité en amont de la procédure pénale, puisque c'est les forces de l'ordre qui dressent un procès verbal, comme pour une contravention routière, si ce n'est que l'amende forfaitaire délictuelle reste délictuelle, c'est-à-dire que c'est inscrit au casier judiciaire.
Mais ça passe plus par la justice.
Ça passe plus par la justice.
Ça, c'est quand même une évolution considérable, non, Ivana?
C'est une évolution qui distingue le domaine des stupéfiants de celui des violences conjugales et intrafamiliales.
Parce que cette amende forfaitaire, elle n'existe que en matière de stupéfiants.
Non, pas du tout. Au départ, elle a été créée justement pour des délits routiers. Elle a été étendue à l'usage de stupéfiants et elle va être encore étendue. C'est-à-dire que c'est une mesure qui est relativement en vogue. Là, par exemple, pour introduire de l'alcool dans les stades pendant les JO, ça pourra être sanctionné par une amende forfaitaire délictuelle. Donc il y a une centaine, je crois, de mémoires d'infractions qui vont être passibles d'une AFD.
Et ça, c'est quand même une révolution dans la, une petite révolution pénale, là, parce que ça passe plus du tout par le procureur. Ça passe, je dirais que ça reste au niveau policier, ça va être inscrit sur le casier judiciaire, et ça va permettre de traiter, comme vous le disiez, des phénomènes, massifs.
C'est un paradoxe, mais qui répond à une volonté politique qui est de systématiser la réponse, de standardiser la réponse aussi, et d'avoir un traitement de masse, finalement, qui ne se préoccupe plus de la dimension individuelle.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les stages et l'évolution de ces nouvelles pénalités, de cette troisième voie pour des contentieux de masse ou des contentieux très importants, en compagnie de Marine Delaunay, qui est sociologue, et d'Ivana Obradovic, qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Johnny Cash. On leur remercie d'ailleurs. I Walk the Line. Un mot de commentaire, Ivana Obradovic?
Oui, bah c'est un clin d'œil un peu métaphorique à ce qui est perçu comme... le droit chemin, la norme, le fait de marcher droit. Et effectivement, l'esprit de ces stages, c'est de faire amende honorable, en quelque sorte. Donc voilà, ça me semblait... Puis c'est toujours un plaisir d'entendre Johnny Cash.
C'est vrai, mais dans le fond, à vous entendre, vous êtes critique, on va venir aux critiques maintenant, mais vous n'êtes pas entièrement critique. Ça marche pas si mal que ça, en fait, ces stages. Si on regarde sur les 10-15 ans, Ivana Ibranovitch.
Alors, dans l'enquête qu'on avait faite, on montrait justement différents groupes d'attitudes vis-à-vis du stage. Certains qui étaient intéressés par le contenu et qui envisageaient même de modifier leur comportement de consommation. Et puis d'autres qui étaient plus réservés et qui surtout avaient une approche plus pragmatique de stage, dans le sens où ils écoutaient particulièrement, ça, j'ai pu le voir en observant un de ces stages, ils étaient particulièrement attentifs au module sur les risques judiciaires.
Oui, c'est scène de crainte de la loi et de la répression, du gendarme.
Alors, c'est pas seulement ça, c'est aussi que ça leur permettait d'intérioriser des techniques pour réduire le risque d'être verbalisé, d'être repéré dans l'espace.
Donc, un usage stratégique, en fait, de ces stages.
C'est ça, un usage stratégique pour contourner, finalement, ce risque judiciaire, avoir un comportement plus discret pour minimiser le risque d'être verbalisé.
Alors, même question à vous, Marine Delaunay, sur ça marche quand même. C'est-à-dire qu'il y en a qui attestent, qui reconnaissent qu'il était bon que la justice intervienne pour mettre un coup d'arrêt à leur violence. Vous l'avez vu, ça ?
Effectivement, il est de bon ton de nuancer les groupes de réaction vis-à-vis des stages. Et pour ça, je voudrais rappeler que effectivement, les procureurs proposent les stages à deux conditions. Celle de reconnaître préalablement sa responsabilité et sa culpabilité et celle d'adhérer au dispositif. Donc, dans cette dynamique-là, on observe plusieurs controverses en fait dans la littérature, notamment internationale, sur les mesures de l'efficacité de ce type de stage. Et alors, celles qui observent des signes encourageants sont généralement produites par les promoteurs de ces dispositifs,
oui,
donc elles sont,
oui,
un peu biaisées.
Oui.
Et plus souvent, on voit un discours normalisant en fait des violences. Alors, à la fois, les enquêtes n'indiquent pas que les stages ne sont inutiles, mais en même temps, elles ne disent pas qu'elles produisent des effets positifs non plus. Donc, on surfe un peu sur cette piste. Et les tribunaux, les structures judiciaires, elles, font reposer leurs mesures sur le taux de réouverture des dossiers judiciaires et donc les taux de récidive. Elles observent effectivement un faible pourcentage de réouverture des dossiers. Mais en matière de violence conjugale, ce qu'on peut se dire, c'est que porter à nouveau plainte, rejudiciariser une affaire, ça peut constituer une expérience décourageante pour les victimes. Quand elles ont déjà eu à faire une première expérience pénible. Et donc, la plainte et la récidive ne semblent pas constituer des indicateurs parfaitement fiables.
C'est aussi le but de la manœuvre, c'est-à-dire d'éviter que les gens reviennent, pas du tout pour des raisons parce qu'ils sont plus conscients des risques, mais parce qu'ils n'ont pas envie de revivre cette sorte, on dirait en termes sociologiques, de drame social. Dans le fond, ce que la justice veut faire, c'est qu'il se passe quelque chose et pas rien, que c'est quelque chose soit plutôt désagréable, soit plutôt une mauvaise expérience, et que c'est une fonction qui est assez proche de celle de la peine, sauf qu'elle est en raccourci, elle est beaucoup plus civile, Marine Delaunay.
Effectivement, mais là, l'expérience pénible est aussi vécue du point de vue des victimes.
C'est ça.
Si elles
ne
souhaitent pas porter plainte une seconde fois et qui se tournent peut-être vers d'autres dispositifs que la plainte pour engager une séparation ou bien solutionner cette affaire.
Cette dimension de drame social, ça vous dit quelque chose, Ivana Obradovic? C'est-à-dire cette idée qu'il faut marquer le coup, notamment en matière de drogue, il faut qu'il y ait une réaction sociale, même si elle passe par un stage.
Alors l'esprit des stages stupéfiants, c'était plutôt de cibler des profils très particuliers de consommateurs. D'abord des usagers occasionnels, c'est-à-dire pas des usagers dépendants. C'était aussi de viser des personnes qui étaient interpellées pour la première fois, qui n'avaient pas d'antécédent judiciaire, donc, et des personnes solvables qui puissent s'acquitter du coup des stages, donc plutôt des personnes insérées. Et ce qu'on voit en pratique, c'est qu'il y a à peu près 20% du public des stages qui relèverait plutôt d'une mesure sanitaire, puisque c'est des usagers quotidiens de cannabis qui fument depuis plus de 5 ans, qui se considèrent eux-mêmes comme dépendants. Donc on voit que le public cible n'est pas exactement celui qui est effectivement atteint. Et l'autre point important aussi, c'est les disparités d'application de ces stages. C'est-à-dire que pour ce qui est de la durée, par exemple, il y a des stages d'une journée, des stages de 2 jours. On le disait tout à l'heure, ça oblige les participants à poser un ou deux jours de RTT, donc c'est pas tout à fait la même histoire. Le coût des stages est aussi très variable.
Oui.
Les textes prévoyaient un coût maximum de 450 €. Personne n'applique ce tarif-là, mais du coup, il y a une grande disparité. Ça a été jugé trop élevé par les associations.
Et Éric Dupond-Moretti disait dans la conférence de presse, il disait si ceux qui veulent pas de stage de parentalité, 3 700 € d'amende. Donc cette dimension financière, elle est très importante dans les stages.
La dimension financière, elle est vraiment associée à cette philosophie de la responsabilisation, avec l'idée de frapper les usagers au portefeuille, en quelque sorte, pour les aider à prendre conscience. C'est vraiment ce terme qu'on retrouve dans le descriptif de tous les stages, je crois, faire prendre conscience des risques et des dommages occasionnés par un comportement infractionnel.
C'est ça. Et cette prise de conscience, elle ne vient pas uniquement du contenu du stage, elle vient aussi de l'ensemble, finalement, de l'ensemble, du coût, du temps perdu, un peu de la honte sociale, participer à ça.
Exactement, tout à fait. La honte sociale, effectivement aussi, ce qu'on observe dans les discours des auteurs de violences qui admettent leur responsabilisation, c'est pas tant le passage à l'acte en lui-même que bien sa judiciarisation. Et notamment la publicisation de cette judiciarisation auprès de leurs proches, et notamment des autres hommes de leur entourage.
Ils ont honte de dire qu'ils ont été à un stage pour violence, pour un violent.
Exactement.
Mais c'est une manière de leur envoyer l'image. C'est profondément l'esprit de la justice. C'est une manière de leur renvoyer du réel, on pourrait dire, en termes.
Oui, tout à fait. C'est là où la judiciarisation marque le coup, comme vous disiez tout à l'heure.
C'est ça. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans la longue durée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'il y a quand même derrière une évolution du regard porté par la justice et peut-être par la société sur les auteurs de violences ou sur les toxicomanes ou les personnes consommant des stupéfiants. C'est-à-dire, dans le fond, on est parti d'une conception très, très éducative. Éducative ou thérapeutique, on arrive avec cette idée de responsabilisation. D'abord, on mise plutôt sur le citoyen, sur la part saine finalement la partie saine des consommateurs de drogue ou des hommes violents que sur la partie pathologique. Puis ensuite, on sollicite leur capacité à se situer comme un acteur rationnel, stratégique, à calculer les risques. Puis à la fin, on a fixé un prix, un coût à l'infraction avec l'amende forfaitaire. Vous voyez pas, Ivana Obradovitch, cette évolution finalement dans la perception même que l'on se fait du je ne veux pas dire du délinquant, mais des auteurs d'infraction.
Alors c'est peut-être là-dessus que les différents types de stages se distinguent, puisque la particularité de la consommation de stupéfiants, c'est que c'est un délit sans victime. Si ce n'est l'usager lui-même.
Et c'est d'essayer de lui faire prendre conscience qu'il est victime, justement.
Voilà, c'est ça. C'est la philosophie des stages dans ce cadre-là, c'est vraiment de provoquer un sursaut, une réflexion sur sa propre consommation, donc sur les risques sanitaires de sa propre consommation, mais aussi les risques sociaux qu'on fait prendre à la famille, par exemple, en prenant le volant, en ayant fumé du cannabis. Donc voilà, c'est vraiment, ça participe vraiment d'une... Michel Foucault parlait de disciplinarisation, c'est vraiment cet esprit-là de redressement, d'aider à un changement de comportement.
Et d'évanescence un petit peu du thérapeutique aussi, non ?
Alors effectivement, les stages sont collectifs, donc la dimension thérapeutique, par définition, est atténuée.
C'est ça. Alors concernant les hommes violents, est-ce que vous vous retrouvez dans cette évolution finalement de la perception même du délinquant, de l'auteur d'infraction ?
Oui, tout à fait. Les auteurs de violences conjugales sont devenus des sujets à part entière des politiques publiques, en fait, à partir du Grenelle des violences conjugales, donc très récemment, en 2019-2021, et la création des CPCA.
Et c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on ne voit plus, comme vous le rappeliez, ce n'est plus que des victimes qui sont l'objet des politiques publiques, mais c'est les victimes et les auteurs. Là, il y a une véritable évolution.
Oui, tout à fait. L'institutionnalisation de la prise en charge des auteurs, elle apparaît de manière bien plus tardive que celle de la prise en charge des victimes, bien entendu. Et ce qu'elle permet aussi, ce qu'elle apporte, je crois, c'est une démystification un peu de l'auteur de violences conjugales, qui aujourd'hui, on observe davantage de représentations de qui sont les auteurs de violences conjugales dans les médias, dans nos représentations collectives et cognitives. Mais à l'époque où moi je conduisais ces entretiens, l'auteur de violences conjugales était une figure archétypique, très monstrueuse, avec la politisation de la question des auteurs de violences conjugales. Eh bien, on admet leur caractère plus classique, plus ordinaire, et donc la nécessité de prendre en charge cette partie-là du problème social.
Est-ce que c'est pas d'ailleurs une des grandes évolutions aujourd'hui, après MeToo, après ce qu'on voit au Festival de Cannes, après je pense à l'exemple à livraison du Monde d'hier, c'est-à-dire du journal Le Monde, c'est-à-dire que les violences intimes, elles concernent tout le monde. Et qu'elles ne sont plus, il n'y a plus cette image du délinquant, du monstre, comme vous le disiez. Là, il y a une véritable évolution, Marine Delaunay.
Oui, tout à fait. Alors, cette rhétorique-là, on l'avait pour les victimes. C'est-à-dire, toute femme est susceptible d'être victime de violences conjugales un jour. Mais maintenant, de pouvoir s'entendre dire que les hommes auteurs de violences conjugales sont aussi... des hommes ordinaires, en réalité.
Et parfois des célébrités.
Et bien sûr, parfois des célébrités, des hommes de pouvoir, effectivement. C'est assez vertigineux, en fait, c'est très inconfortable de se le dire, parce que ça donne l'ampleur, l'amplitude du phénomène.
Je me tourne maintenant du côté des stupéfiants, et donc de vous, Ivana Obradovic. Il y a aussi un petit peu un phénomène comme ça, concernant les drogues, c'est-à-dire cette prise de conscience que ça concerne tout le monde. C'est l'exemple américain aujourd'hui, où il y a la drogue fait des ravages chez les Blancs, et les Blancs fortunés, des classes moyennes supérieures. Il n'y a pas quelque chose aussi, là, une évolution profonde des consommateurs de stupéfiants?
Alors, les stages stupéfiants, comme leur nom l'indique, portent sur les usagers de stupéfiants, donc des drogues interdites. Or, les drogues qui font le plus de ravages, c'est le tabac et l'alcool. Et l'alcool est souvent associé d'ailleurs à des violences intrafamiliales, des violences sociales diverses. Donc on voit bien qu'il y a aussi l'idée de pointer des comportements jugés déviants qui correspondent à une hiérarchie de valeurs politiques.
Mais vous remarquez que dans les stages, il y a souvent des auteurs, des consommateurs plutôt qui ne sont pas les clients habituels de la justice, on va dire.
Alors justement non, c'est-à-dire que on a pu voir dans le public des stages stupéfiants une surreprésentation de ce que certains sociologues appellent les clientèles pénales, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve dans le système de justice pénale, qu'on retrouve aussi via la récidive, en particulier des catégories populaires, par exemple, qui sont surreprésentées dans le public des stages stupéfiants. Donc, d'une certaine manière, ces clientèles pénales se retrouvent, quelles que soient les mutations des sanctions pénales.
Alors, là, on arrive à cette émission à proche de la fin. Je voudrais vous poser une question. Je sais que les sociologues ont horreur qu'on la leur pose. C'est de savoir ce qu'il faudrait faire. Dans quel sens devrait aller cette histoire. On a vu qu'elle commence par l'éducatif. On a vu les stages de sensibilisation. Ensuite, les centres de prise en charge beaucoup plus personnalisés. Alors, Marine Onévert, dans quelle direction faudrait aller. Vous parlez beaucoup de cette idée qu'il faut faire évoluer les représentations. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer les représentations des violences et de la femme?
Oui, effectivement, le travail sur les représentations, dans le sens, c'est tout à fait corrélé à la question de la responsabilisation. La direction que prennent les CPCA et qui paraît pertinente, c'est celle de la pluridisciplinarité, donc de l'hybridation, on parlait tout à l'heure, l'hybridation des formats de prise en charge.
Une prise en charge globale.
Et effectivement, une prise en charge globale, c'est le maître mot, en fait, de ces structures. Voilà, une approche à la fois médico-sociale, également
l'insertion professionnelle.
Sensible au rapport de genre. Un peu ce qu'on peut observer dans d'autres modèles, à l'échelle de l'Union européenne. On a des prises en charge sous ce format-là, par exemple en Suède, pour ce que je connais, prise en charge globale des problématiques liées à la masculinité.
Et à la violence, qui passe, il y a un pont d'ailleurs avec le travail que fait Ivana Obradovic, avec les addictions qui jouent un rôle important. Dans quelle direction? Même question pour vous, Ivana Obradovic.
Alors, je répondrai pas forcément sur les recommandations et la dimension normative, mais plutôt sur les tendances qu'on observe en matière de consommation de drogue. D'abord, la première, c'est que, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'usage de cannabis baisse. C'est ce que montrent nos enquêtes, à la fois en population adulte et encore plus chez les plus jeunes.
C'est en raison des stages.
En raison d'une diversité de choses, facteurs. Sans doute. Et puis, dans ce qu'on peut voir dans certaines enquêtes qualitatives, sans doute un changement d'image aussi du cannabis qui va de pair avec la dénormalisation du tabac, qui a une très mauvaise image. C'est-à-dire que le tabagisme baisse, or le cannabis est souvent consommé avec du tabac. Donc probablement, il y aura un lien entre les deux phénomènes. Et le tabac, aujourd'hui, par exemple, est vraiment perçu comme un produit ringard dans les jeunes générations. Donc voilà, ça c'est une première explication. En revanche, du côté des consommations qui sont en plein essor, il y a la diffusion de la cocaïne d'abord, avec des signaux sanitaires qui sont plutôt alarmants. Un produit qui est devenu plus disponible, plus accessible, des niveaux de production au niveau mondial qui sont très importants.
Et donc une offre très 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 massive.
Une offre importante qui arrive en Europe, notamment par les ports et les façades maritimes. Et surtout la cocaïne, il y a des risques d'intoxication et des risques même mortels qui sont importants. Donc une diffusion, alors uniquement chez les adultes, c'est pas du tout un produit qui concerne les plus jeunes. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique. Et la deuxième, elle porte sur les drogues de synthèse. Alors traditionnellement, ce qu'on considérait comme des drogues de synthèse, c'est la MDMA ou l'ecstasy, la kétamine, par exemple.
Il y en a des centaines.
Alors maintenant, on parle des nouveaux produits de synthèse qui se renouvellent rapidement.
Et pour ça, les stages de sensibilisation ne seront pas suffisants, peut-être?
En tout cas, ils n'ont pas été construits pour ce type de consommateurs, mais plutôt pour ceux qui consomment du cannabis.
Merci beaucoup à vous, Marine Delaunay. Merci, Ivana Obradovic. Esprit de justice est terminé ce soir. À la technique, il y avait Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Sandrine Chaperon. Merci à Samantha Anderlin et à Dominique Bouvier qui m'ont aidé à préparer cette émission. Une émission d'Antoine Garapon.